chemin de la sagesse, une émission proposée par Michel Théron.
Michel Théron, bonjour.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Michel Théron, nous continuons tranquillement à lire votre livre publié aux éditions BOD sur les chemins de la sagesse. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la question du souci de soi. Alors n'est-ce pas égoïste, Michel Théron, de parler du souci de soi avant d'évoquer le souci des autres?
Alors c'est peut-être égoïste, hein, mais l'important c'est que ça ne soit pas égocentrique. Nous allons revenir sur cette opposition.
C'est ça. Alors le souci de soi.
Voilà, alors on nous répète constamment qu'il faut dans la vie avoir le souci des autres. Hein. Ça commence dès l'enfance, et sans doute on a raison, parce que l'enfant est totalement égocentré par nature. Hein. Il faut donc apprendre à l'enfant qu'il n'y a pas que lui qui compte, qu'il doit s'occuper aussi de ses camarades, etc. Rien de plus banal et rien de plus normal. Mais ensuite, et c'est là qu'il y a un problème, Guylaine, hein, une certaine éducation morale, sacrificielle, à base sûrement religieuse, prétend faire passer le souci des autres avant le sien propre, avant le souci de soi.
Là, je sens, Michel, que vous sortez vos dents. Hein,
ah oui, 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 oui.
Là, je vous sens venir.
J'aime bien la polémique. Hein, vous savez, comme disait René Char, « Ce qui vient au monde pour ne rien troubler » ne mérite ni égard ni patience. Hein. Il faut donc troubler, jeter le doute.
Hein. Et bien là, vous n'allez pas manquer à ce que, au conseil de René Char.
Voilà. Alors, selon cette éducation morale, on nous dit qu'il faut se détourner de soi, se dévouer aux autres, et pour cela, comme on dit familièrement, prendre sur soi, hein. Et une expression même comme s'écouter, elle est souvent péjorative. Tu t'écoutes trop, voilà, hein, ne t'écoute pas, voilà. Alors, par exemple, pour un philosophe comme Kant, est morale une action qui implique qu'on ait de la peine à l'accomplir. Il faut que cette action nous coûte un total désintéressement, un oubli complet de soi. Et pour Kant, le seul critérium à prendre pour définir la moralité. Et le devoir est vu de façon inconditionnelle. C'est ce que Kant appelle l'impératif catégorique de la raison pratique. Pratique, ça veut dire qui concerne l'action, praxis en grec. Hein. Donc catégorique, c'est-à-dire inconditionnel. Et Kant nous dit, nous ne sommes pas au monde pour être heureux, mais pour faire notre devoir, vous voyez. Donc cette morale de l'effort qui garantit le mérite de celui qui la met en œuvre, elle était ignorée des anciens grecs et romains. Pour ces derniers, un acte moral émanait directement de la nature de l'individu. C'était comme une postulation spontanée de son être, hein, l'amour-propre d'un cœur généreux, l'égoïsme en quelque sorte d'un grand caractère. Hein. Alors cette morale laïque, elle nous semble laïque et elle a été reprise comme telle chez nous par les instituteurs français, les hussards noirs de la Troisième République, qui l'ont enseigné pendant des décennies à des générations d'élèves, même en ne sachant pas qu'il avait inspiré. Je suis d'autant plus porté à le dire que je suis fils d'instituteur de l'enseignement public. Hein, et donc, on nous enseignait une morale. Alors, l'école laïque s'imaginait être opposée à l'école confessionnelle, à l'école religieuse, mais en fait, le contenu était le même. Hein. C'était un contenu qui visait à faire oubli de soi, hein, à ne penser qu'aux autres. En réalité, cette morale kantienne dont je viens de parler, elle a une origine essentiellement religieuse. C'est ce qu'a montré Schopenhauer, par exemple, dans un livre qui s'appelle « Le fondement de la morale ». Voici ce que dit Schopenhauer. Kant nous fait penser à quelqu'un qui aurait dansé pendant toute une soirée avec une femme masquée, hein, et donc il lui aurait fait la cour, et à la fin, cette femme se démasque, et c'est sa propre femme. Le danseur reconnaît sa propre femme. Donc, on sait que Kant appartient à un pays luthérien, hein, et je pense qu'il n'a fait que reprendre à la relouquant, hein, si on me permet ce néologisme, une morale religieuse qui lui avait été enseignée. Derrière l'impératif catégorique de la raison pratique, il faut lire les commandements du décalogue qui sont des injonctions inconditionnelles. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, etc. Alors, ce côté combinatoire du « tu dois » qu'ancien implique une totale hétéronomie de l'agent. Hein. Hétéronomie, cela veut dire que nous ne sommes pas l'origine de la loi que nous devons mettre en pratique. La loi nous vient d'ailleurs, hétéros, hein, autre, hein, et nomos, la loi. La morale antique, au contraire, ne donnait jamais des ordres comme cela, elle donnait des conseils. C'était, comme l'on dit, une parénétique. Parénétique vient du grec parainein, qui veut dire conseiller, donner un conseil. Cette morale nous disait, par exemple, si tu veux être heureux, pratique la vertu, conditionnelle, hein. Ou bien elle était à l'optatif, hein. Puisses-tu être heureux et pratiquer la vertu. Donc, cette notion d'examen, de discernement, hein, me semble mieux convenir, puisque mon livre est consacré à la sagesse, hein, à la notion traditionnelle de sagesse. La sagesse ne fait pas mépris de l'individu et lui fait crédit d'une recherche personnelle. L'individu alors se trouve vraiment autonome, c'est-à-dire qu'il est lui-même l'origine de la loi qu'il se fixe, hein. Et finalement, cela me semble plus mature. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Guylaine. Hein.
L'autonomie est toujours signe de maturité, non ?
Voilà, voilà. En général, l'accès à l'autonomie suppose une réévaluation et un examen critique de l'héritage collectif qui nous est imposé, et une formation de soi par soi. Ce sont d'ailleurs, par parenthèse, les deux faces de la culture. La culture héritage, c'est ce que les Allemands appellent Kultur, ce dont on hérite, hein. Et la culture formation, qui est un réexamen de la Kultur, de la culture héritage, c'est ce que les Allemands appellent Bildung, d'une racine que vous trouvez dans l'anglais to build, qui veut dire édifier, construire, hein, la Bildung. Alors, dans la vie de chaque individu, la Bildung succède à la Kultur. C'est cette Bildung que vous avez, par exemple, dans la notion allemande de Bildungsroman, ou roman d'apprentissage, un roman de formation. Les années
d'apprentissage, vous diriez.
Tout à fait, oui. Initiatique. Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, de Goethe, par exemple, appartiennent à, c'est un livre qui appartient à cette catégorie du roman de formation. Et alors, on peut voir le passage de la première à la seconde notion, de la Kultur à la Bildung, dans la vie, hein, et on peut y voir une voie d'accès essentielle à la sagesse. Alors, par parenthèse, je me permets de signaler que dans mon livre « La culture générale expliquée », qui est paru chez le même éditeur, BOD, en 2018, hein, j'ai bien analysé ces deux façons de voir la culture, hein, surtout dans le premier chapitre. Alors là, je pense qu'il en a été de même pour vous, Guylaine, que pour moi. Combien d'entre nous ont été éduqués dans l'idée qu'il faut dans la vie se dévouer inconditionnellement aux autres, hein, que là est le but essentiel de toute vie. Je vous vois acquiescer,
oui,
hein. Voilà, hein. Je pense par exemple au monde du soin, hein. Combien d'infirmières ont été formées et ensuite considérées à l'image des bonnes sœurs, hein, des bonnes sœurs. L'idée de vocation d'ailleurs, hein, que l'on allègue très souvent, a une origine religieuse, hein. Dans la Bible, c'est Dieu qui appelle, ou au carré en latin appelé, hein, qui appelle l'homme à agir de telle ou telle façon. Mais qu'est-ce que l'on gagne là, hein? Qu'est-ce qu'on gagne à faire, j'aime bien le jeu de mots, à faire d'un soignant un soignant, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui se nie lui-même, hein? Je pense que là, c'est lâcher la proie pour l'ombre, hein, il me semble, hein. Alors, moi, je me suis amusé à regarder ce que disent les dictionnaires, puisque vous avez dit en commençant, vous avez prononcé le mot d'égoïsme. Alors, que dit Robert, le dictionnaire Robert, le grand Robert, à égoïsme, hein? Il dit « attachement excessif à soi-même qui fait que l'on subordonne l'intérêt d'autrui à son propre intérêt ». Alors, vous voyez, Guylaine, je pense que là, c'est une définition totalement idéologique, hein. Vous avez le mot « excessif », hein, vous avez le mot « subordination d'intérêt », c'est une définition qui est sans appel et qui vaut condamnation de l'égoïsme. Et le dictionnaire Robert renvoie comme corréla, synonymique à égoïsme, des mots comme « égocentrisme », alors qu'à mon avis, c'est tout autre chose, hein, « intérêt personnel » ou bien « narcissisme », hein. Alors ce sont des mots, évidemment, connotés négativement. Alors, un dictionnaire, c'est le reflet de l'état de la langue à une époque et de l'état des esprits, hein. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que le grand Robert, qui est un dictionnaire laïque, a subi l'influence d'un héritage religieux de 2 millénaires. Simplement, l'état des esprits et des locuteurs montre qu'il y a chez nous un mélange culturel qui est très fort, très prégnant, hein, comme on dit, pour condamner radicalement l'égoïsme. Alors, je m'explique, effectivement, comme je l'ai dit en commençant, il faut bien distinguer égoïsme et égocentrisme. Ce sont deux choses très différentes. L'égoïsme, c'est simplement le fait de penser à soi, le souci de soi, et, tandis que l'égocentrisme, c'est le fait de ne penser qu'à soi, exclusivement, de tout ramener à soi. Hein. Si l'égocentrisme est un défaut, bien sûr, ce n'est pas le cas de l'égoïsme. Il faut avoir, je ne sais pas ce que vous en pensez, Guilhem, mais il faut avoir dans la vie assez d'égoïsme pour résister à l'égocentrisme des autres. Non, vous ne voyez pas?
Oui,
nous avons parlé de ces êtres vampiriques, de ces vampires psychiques qui pompent, entre guillemets, toute notre substance. Eh bien, il faut avoir assez de soucis de soi pour y résister. Hein. C'est une simple question de protection élémentaire, comme le jet d'encre de la sèche. Vous savez que la sèche, lorsqu'elle est en danger du fait d'un prédateur, lâche un jet d'encre, hein, pour éblouir le prédateur et pour se débarrasser de lui. Hein. Alors, de la même façon, pour reprendre le mot d'intérêt que vous avez dans le dictionnaire Robert, hein, on subordonne l'intérêt d'autrui à son propre intérêt. Eh bien, je distingue, moi, les actes qui sont faits avec intérêt des actes qui sont faits par intérêt. Ceux qui sont faits par intérêt, il faut les condamner, bien entendu. Hein. Ça renvoie à l'égocentrisme dont je viens de parler. Mais les actes faits avec intérêt, pourquoi les condamner? Qu'on soit heureux soi-même, par exemple, quand on fait naturellement, spontanément le bien, qu'on y trouve une possibilité d'épanouissement personnel, une possibilité de dilatation, hein, quel mal y a-t-il? Sauf à vouloir valoriser dans nos relations avec les autres l'effort seul et la peine, c'est-à-dire la contraction et le rétrécissement de l'être. Alors là, je vais sortir encore mes griffes, Guylaine, hein, que je dirais que par une sorte de retour inopiné, le par-intérêt que l'on chasse par la porte peut revenir par la fenêtre, hein, eu égard à ce que l'on espère, à la récompense qu'on espère dans cette abdication du moi. Alors, on lit dans les textes évangéliques, hélas, hein, hélas, j'aimerais bien qu'il n'y figurait pas ce texte, mais dans Matthieu chapitre 5 verset 46, dans Luc chapitre 6 verset 32, vous avez la chose suivante, « Aimez vos ennemis, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous ?» Hein, en grec, « tina miston ekete hein, »,« mistos hein, », le mérite, la récompense. Dans cette phrase évangélique, dont je répète que j'aimerais qu'elle ne figure pas dans le texte, enfin elle y est, hein, elle est redoutable et abyssale, car on peut voir dans ce mérite, qui est aussi une récompense, je répète, mistos en grec, une revanche désintéressée des moins bien lotis en matière de qualité morale sur les mieux lotis. Les mieux lotis, ce sont ceux qui font le bien spontanément. Hein. Et à la base de cela, il y aurait le ressentiment, pour reprendre les analyses de Nietzsche, dans la généalogie de la morale. Si tu fais effort pour bien agir, ce que n'importe qui peut faire, tu fais effort, hein, et ainsi tu as plus de mérite, donc tu as plus de valeur que celui qui ne le fait pas et à qui bien agir est naturel. Ainsi tu en seras récompensé et non pas lui. Alors, je sais bien que cela peut déstabiliser certains esprits, mais je prends l'exemple de Gide, par exemple, qui est un protestant de formation, mais un protestant critique, qui est passé de la Kultur à la Bildung. Hein. Gide nous dit « Supprimer en soi l'idée de mérite, il y a là une grande pierre d'achoppement pour l'esprit. » Vous voyez, hein. Et dans les nourritures terrestres, il dit aussi, hein. Alors ça c'est amusant, « Je n'aime point ceux qui se font un mérite d'avoir péniblement œuvré, car si c'était pénible, il n'avait qu'à faire autre chose. » Vous voyez, il n'avait qu'à faire autre chose. Donc, vous voyez, ça c'est ce que Nietzsche appelait philosopher à coups de marteau, c'est-à-dire détruire, mais détruire bien sûr pour construire, hein, pour construire par la suite. Hein. Voilà, alors ce culte exclusif de l'effort renvoie à un aspect essentiel de la morale religieuse. Hein. La morale religieuse repose en fait sur un lien religieux, est alors renvoyé à religare, qui signifie relié. Hein. Et ce lien se manifeste par un contrat de nature synallagmatique, c'est-à-dire fondé sur un échange, allagé en grec, un échange réciproque, passé entre Dieu et puis la créature. Ça repose sur un donnant-donnant. Comme on dit en latin, un do ou des. Je ne sais pas si vous avez fait du latin, Guylaine.
Il y a fort longtemps. Ah,
Regardez comme c'est merveilleux le latin.
Oui,
do ou des. Je donne pour que tu donnes. Comptez les lettres. Do, deo, ut, de, ça fait 3, ça fait 5. Des, ça fait 3, ça fait 8. 8 lettres. Que de choses en si peu de lettres.
Ouais.
Il faut faire du latin, absolument. Il faut faire du latin. Do ou des. Je donne pour que tu donnes. C'est-à-dire, je te donne Dieu mon obéissance pour que tu me donnes, toi Dieu, ta protection. À l'inverse, si je te désobéis, si je romps le contrat, tu es fondé à me punir, hein, et c'est ainsi que ça fonctionne. C'est un contrat ou bien une alliance, ad ligatio. Donc, si on renvoie religio à ligare, religere, hein, relier, hein, donc à ce moment-là, l'alliance s'impose. Hein, cette alliance, c'est un contrat qui a été passé entre Dieu et Moïse sur le mont Sinaï, hein, et dans le lien et l'échange qu'il implique, hein, on espère toujours un gain. Et dans ce contexte, on peut voir que telle morale qui prétend faire abstraction de soi au bénéfice d'autrui est moins désintéressé qu'il n'y paraît. Hein. En fait, je pense au pari de Pascal. Hein. Pariez parce que vous avez tout à gagner et rien à perdre. C'est ce que j'appelle, alors trivialement, excusez-moi l'expression, un dieu d'épicerie. Hein, voilà. Donc c'est une tractation. Cependant, une autre étymologie est possible du mot religion, religio. Hein. On peut le ramener non pas à religare, relier, comme l'ont fait les auteurs chrétiens, Lactance, Tertullien, etc., mais on peut le ramener à legere, hein, donc relegere. Relegere qui veut dire accueillir respectueusement, hein, et relire au fond de soi certaines vérités essentielles. Alors, cette étymologie a pour garant le grand Cicéron. Et Cicéron, ce n'est pas rien. Hein. Cicéron renvoie religio, non pas à religare, mais à relegere, relire. Hein. Il y a aussi le grammairien Olugel qui fait cette étymologie. Et alors, cette dernière vision, qui fait davantage crédit à l'homme lui-même et à sa capacité d'examen, d'auto-exploration, comme dans la Bildung, la formation, hein, elle est plus proche de la sagesse, il me semble, que la première. Elle est plus à hauteur d'homme.
Michel Théron, nous continuons à lire votre livre publié aux éditions BOD sur les chemins de la sagesse. Nous évoquons le souci de soi que vous êtes en train de travailler au niveau de votre
racine. Voilà, comme disait Montaigne, disait, mes fantaisies se suivent et parfois c'est de loin et se regardent mais d'une vue oblique. Parce que les auditeurs peuvent se dire, oui, mais il parle de religion, quel rapport avec la sagesse? En fait,
c'est ça.
Montaigne disait, c'est l'indiligence l'indigent lecteur qui perd son sujet et non pas moi. L'indigent, celui qui manque de diligence, d'attention. En fait, tout se tient, tout se tient. Mais effectivement, souvent, on y va par des moyens détournés, si vous voulez. On prend pas le GR à la grande randonnée, on fait du hors-sentier.
Il va falloir se le récupérer, ce souci de soi.
Absolument.
Dans tout ce, je vais pas dire galimatia, pas du tout, mais de tout.
J'espère.
Non. Là, avec tous ces, ces apports que nous donnez aussi pour réfléchir. Vous nous donnez matière à réflexion.
Absolument.
Pour identifier ce souci de soi et le réhabiliter.
Voilà. Alors, face à tous ceux qui le condamnent, il faut réhabiliter, je pense, ce fameux souci de soi. Alors, il y a des proverbes qui pourraient nous y inviter. Alors, plus dans une émission initiale, nous avions parlé de la sagesse des nations contenue dans certains proverbes. Par exemple, des proverbes qui disent « qui n'est bon pour soi n'est bon pour personne ». Ou bien encore « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Vous voyez, voilà. Et la Bible elle-même, sur laquelle j'ai parfois ce regard critique.
Alors, vous l'avez bien égratigné aujourd'hui.
Je l'ai égratigné,
même l'évangile.
Dans l'optique de la Bildung, de la formation, du réexamen critique, et non pas de l'observation aveugle d'un héritage subi. La Bible elle-même engage en mes endroits à prendre soin de soi. D'ailleurs, elle nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. C'est dans le Lévitique, au chapitre 19, verset 18, puis 19 aussi, verset 34. Elle ne dit pas « plus que soi-même », elle ne nous dit pas « tu dois aimer ton prochain plus que toi-même ». Le maximum, pourrait-on dire, de l'amour que l'on porte à son prochain est celui qu'on se porte à soi-même. Soit naturellement, soit idéalement, et nous verrons que ce n'est pas la même chose dans une émission future qui s'appellera « le vrai soi ». Cette formule du Lévitique signifie bien « a contrario ». Par le contraire, que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer son prochain.
Comment on explique ça ?
Eh bien, d'abord, il faut bien distinguer les choses. Dans le Lévitique, le prochain, c'est simplement le co-religionnaire, celui qui appartient à la même confession religieuse que soi. Dans l'Évangile, qui reprend cette phrase de la Bible juive, le prochain, c'est tout homme, tout homme que l'on rencontre. Et l'exemple type pour illustrer cet élargissement est la très belle parabole du bon samaritain que vous avez dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, versets 30 à 37. Alors, je dépasserai cette différence historique pour ne considérer que les rapports du moi et des autres, quels qu'ils soient. Alors, qu'est-ce que cela veut dire « aime ton prochain comme toi-même » ? Que veut dire « comme toi-même » ? Ça peut signifier « aime ton prochain comme tu t'aimes ou comme tu dois t'aimer toi-même ». Ou bien au contraire, aime ton prochain comme étant toi-même, c'est-à-dire un autre toi-même, un alter ego. Le sens n'est pas exactement le même. Alors dans le second cas, on voit dans l'autre ce que l'on est, ou plus précisément ce qu'on peut être soi-même une fois réalisé le soi en soi, comme nous le verrons dans l'émission consacrée au vrai soi, et on constate que l'autre et soi ne font qu'un. Je pense par exemple à la salutation sanscrite Namasté, qui est utilisée avec les mains jointes en Inde. Alors nous ne sommes pas à la télévision, nous ne pouvons pas montrer d'image, mais enfin vous savez qu'en Inde et en Orient en général, on se salue en joignant les mains. C'est ce qu'on appelle Namasté. Certains disent que cette salutation signifie la chose suivante. La part essentielle de moi, certains disent la part divine, reconnaît la part essentielle qu'il y a en toi. Et c'est la fin de la dualité ordinaire, de la séparation, et c'est la réalisation de l'état de non-dualité, ou de non-séparation, de fusion, qui est toujours recherché, que l'on appelle dans l'hindouisme Advaita.
C'est parce qu'on est semblable que si on aime l'autre, on s'aime soi-même.
Voilà.
C'est dans cette similitude.
Reconnais en l'autre un autre toi-même, un alter ego. Alors, j'ai cité Pascal, il me semble, tout à l'heure ou dans une émission précédente.
Dans une émission précédente,
ouais, voilà. Alors, c'est un peu ma bête noire, ce Pascal. Il disait, le moi est haïssable. Enfin, c'est une parole de barbare, ça, le moi est haïssable. raisonnable. Hein. C'est une position fanatique, une position barbare. Hein.
Ils sont expliqués, peut-être.
Voilà, cela mène au mépris de soi, ce qu'on appelle en latin « contemptus sui ». Hein. Et ça a perduré longtemps, plus ou moins ouvertement, dans certains milieux chrétiens. Mais je pense que c'est une impasse dangereuse. Vous voyez ce que disait Valéry, très malicieusement, un grand humoriste, Valéry. Il disait « Si le moi est haïssable, aimer son prochain comme soi-même devient une atroce ironie. » Vous voyez, et ça me semble assez vrai. Hein.
Ouais.
Bon, on peut être aussi de l'avis de Voltaire, qui dans la 25e lettre philosophique, appelée aussi lettre anglaise, hein, lorsqu'il disait à l'adresse de Pascal, « Pourquoi nous faire horreur de notre être hein? Il n'est pas sain de vouloir ainsi se déprécier, s'abaisser. Et est-ce que les autres même veulent de nous cet abaissement ?» On peut en douter, car cet abaissement souvent se paie très cher.
Finalement, personne n'y gagne.
Personne n'y gagne, tout à fait. Est victime celui qui opère ce sacrifice de soi, et puis victime aussi l'autre. Sont les autres. Hein. On constate en effet que plus l'être s'abaisse et plus il se sacrifie, plus il est susceptible de faire du mal aux autres. Je pense que c'est quelque chose à quoi on passe pas assez. C'est celui qui se fait violence à lui-même devient violent.
Mmh.
Celui qui a mal en lui fait du mal à l'autre. Vous avez vu, vous connaissez, Guylaine, ces petits chiens comme des roquets qui aboient très fort quand on s'approche d'eux. Je pense que c'est parce qu'ils se sentent petits. Plus le chien est petit, plus fort il aboie.
Ouais.
Hein, vous voyez ?
Il imagine faire peur.
Voilà,
parce qu'il a peur.
Il est conscient de sa faiblesse, de sa petitesse. Donc, plus le chien est petit, plus il aboie fort. Et donc, le sentiment de la faiblesse mène forcément à l'agressivité. Sénèque le dit très bien, hein. Toute cruauté est le fruit d'un sentiment de faiblesse, hein. Je dis en latin, je me fais plaisir. Omnis ex infirmitate feritas est. Toute cruauté, feritas, hein, vient du sentiment de sa propre faiblesse. C'est sur le refoulement et la frustration, c'est-à-dire la blessure que l'on se fait à soi-même, que va pousser le fanatisme. Il va se nourrir d'inhibition. Par exemple, la frustration sexuelle rend les êtres psychorigides et violents. On le voit dans le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, le film de Michael Haneke qui s'appelle « Le ruban blanc ». Peut-être on voit sur quel terreau de puritanisme religieux, de frustration et de peur du corps et de haine des instincts naturels quand même, a pu pousser ensuite le nazisme en Allemagne. Hein. Et l'intégrisme religieux peut aller jusqu'à faire un terroriste. La peur de la sexualité, vue comme un péché, comme une cause de damnation, hein, va détruire l'être. Le proverbe latin le dit bien. Semen retentum venenum est. Retenir sa semence est un poison. Vous voyez? C'est dans Belle de jour, je crois, de le film de Buñuel, à propos du personnage de Catherine Deneuve. Je sais pas si vous l'avez vu.
Oui, j'ai vu, ouais. Belle de jour.
Ouais. Voilà. Donc, finalement, il n'y a qu'une chose dont nous devrions avoir peur. C'est de la peur elle-même. La peur dévore l'âme, c'est le titre d'une pièce de Fassbinder, Rainer Werner Fassbinder. La peur, angst, hein, dévore l'âme. Hein. Alors, je m'excuse par avance pour ceux qui aiment l'apôtre Paul, mais je dirais que l'apôtre Paul a dit qu'il était le plus petit des hommes, ce que dit le nom qu'il s'est choisi. Il s'appelait Saül et il s'est nommé Paulos ou Phaolos, qui veut dire petit. Hein. Ensuite, il nous dit que le Christ lui est apparu, ressuscité, à lui en dernier. Il nous dit comme un avorton, vous voyez. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 8. Hein. Alors voilà, un homme qui se rabaisse, qui se rapetisse. Mais à côté de cela, combien d'imprécations, combien d'anathèmes va-t-il jeter sur ses adversaires et avec quelle violence, hein? Par exemple, dans 1 Corinthiens 16, 22, hein, il dit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, anathema esto », etc. Il y a une très grande violence chez Paul. Alors, commencer par se dire qu'on est un avorton, se rapetisser ainsi, peut mener à ces imprécations, à ces explosions de violence. On voit qu'il n'est jamais bon de se déprécier et que les autres même peuvent pâtir de cette absence de souci de soi, de prise en compte de soi. Alors, vous voyez, j'ai peut-être choqué les Pauliniens, hein. Je parle sincèrement, comment les choses me paraissent, mais je ne crois pas qu'il soit jamais une bonne chose de s'oublier, hein, de se déprécier,
soyons
de se descendre
avec nous-mêmes.
Voilà, la bienveillance. Vous avez raison, c'est un très beau mot, celui de bienveillance.
Allez, on se retrouve très bientôt. Merci, Michel Théron.
Au revoir à tous.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.